Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, mesdames, messieurs, nous allons poursuivre, puisque vous avez bravé le froid et la proximité des vacances, nous allons continuer notre examen. Donc, nous allons travailler à propos de la constitution du Panthéon des Amschaspenta, a priori, sur la base fixée par Nartène. Hein. Nous allons considérer que le secteur du Panthéon que l'on appelle traditionnellement et selon Mary Boyce par malentendu les Amschaspenta ne sont pas une création du mazdéisme vieil avestique. Le système des six entités formant heptade avec Ahura Mazda n'est pas constitué dans l'Avesta ancien. C'est une fabrication, hein, fabrication des théologiens de l'Avesta récent. Alors, nous allons examiner si cela même est parfaitement vrai, et nous allons essayer de localiser le malentendu signalé par Boyce. Donc, pour identifier un secteur particulier du Panthéon que l'on peut définir comme Amschaspenta, il faut tenir compte de quatre critères. D'abord, la sélection d'une série fixe de six entités, formant un groupe de sept avec Ahura Mazda. Accessoirement, il faut envisager leur ordre de succession, car il y a un ordre de succession fixe. Je le réinscris afin que les choses soient claires. L'ordre de l'Avesta récent, Vohumana, la bonne pensée, Asha, l'ordre cosmique, Kshatra, le pouvoir, ce sont les trois entités neutres, Armaiti, la pensée adéquate, première entité féminine, Urvatat, l'intégrité du corps, disons en gros la santé, mais c'est cette forme de la santé qui est le fait que le corps est entier, et Amrutat, l'immortalité. Clôturant la série. C'est l'ordre de succession canonique. Deuxième critère, c'est l'association des épithètes, des adjectifs Amesha, immortel, et Spenta, bénéfique, leur association indissoluble formant un titre spécifique. Donc ces divinités ont donc un titre qui leur est propre. Le troisième critère, c'est bien sûr la spécificité du titre, parce qu'il faut l'envisager sous deux aspects. L'appellation immortel bienfaisant, Amschaspenta, est réservée à ces six entités et ne l'est pas aux autres divinités du Panthéon. Accessoirement aussi, plus clairement encore, l'on peut tenter de détecter une éventuelle opposition fonctionnelle avec d'autres secteurs du Panthéon. Vous pensez bien sûr au dieu Yasata, les dieux Yasata, définis comme Yasata. Quatrième critère, les six entités ont trouvé un ordre d'insertion dans les énumérations liturgiques. Elles se situent nécessairement entre Ahura Mazda et les autres dieux. Voilà dans quelles sont les conditions, les critères qui doivent être réunis pour que nous puissions à juste titre parler d'immortels bienfaisants comme un secteur du Panthéon. Or, que se passe-t-il dans l'Yasna? Bien, nous pouvons l'examiner, si vous voulez bien, selon les différentes strates du Yasna dont nous avons déterminé l'existence dans les leçons précédentes. Dans la Nivide initiale, l'annonce sacrificielle, n'est-ce pas? Nous devons envisager les deux variantes de la Nivite. La variante formulaire au datif, c'est le Yasna 1, et la variante formulaire à l'accusatif, c'est le Yasna 2. Eh bien, première observation immédiate, dès la deuxième phrase, Yasna 1, 2, n'est-ce pas? Entités définies comme Amschaspenta ne sont pas six. Elles sont en réalité neuf. La liste comporte, en cutte liste d'ailleurs, deux autres entités. Geouchtachan, le menuisier de la vache, celui qui a façonné la vache comme un travail de menuiserie, comme on travaille le bois. Geouchtachan, l'âme de la vache. L'âme de la vache, c'est-à-dire la part de la vache que réclament les dieux lors du sacrifice, puisqu'ils ne réclament pas la chair, et le feu, fils d'Ahura Mazda. Nous savons que ces neuf entités qui se situent dans la strophe 2 sont définies comme Ameshaspenta, mais de manière indirecte, car le texte ajoute par bonheur une petite spécification qui a son prix, n'est-ce pas ? C'est que la dernière entité, le feu sacrificiel, l'on nous dit, ce qui est normal, ce qui est logique, vous comprendrez, qu'il est le premier des Ameshaspenta, le premier des Ameshaspenta à avoir pris place rituelle, à avoir pris sa place dans la cérémonie liturgique. Ce qui est logique, il n'y a pas de sacrifice sans feu. Hein. S'il faut inviter les autres dieux, il faut que préalablement, par contre, le feu, lui, ait trouvé sa place rituelle dans les préliminaires même de la cérémonie. C'est la deuxième phrase de la Nivite. Vous voyez que l'ordre d'insertion est présent. N'est-ce pas ? Ces entités sont associées immédiatement, succèdent dans l'ordre énumératif, succèdent à Ahura Mazda. Et elles partagent d'ailleurs le privilège d'Ahura Mazda, le sacrifice tout entier leur est consacré, et non pas seulement certains moments particuliers du sacrifice comme les autres divinités. Donc, partagent le statut sacrificiel d'Ahura Mazda en tant que bénéficiaire de la cérémonie tout entière. Donc le titre, l'ordre d'insertion, la spécificité du titre apparemment, et en tout cas, mais il n'y a pas sélection de six entités. Il n'y a pas sélection de six entités puisqu'elles sont neuf. Alors est-ce que le titre les met en opposition fonctionnelle avec les dieux Yazata ? Il y a un indice, il est faible, je vous le donne, mais vous verrez sa faiblesse. Dans la phrase récapitulative, Yasna 1, 19, l'énumération est terminée à ce moment, la phrase 19 est récapitulative. Eh bien, elle consiste à invoquer ceux qui ont été mentionnés, et elle distingue, la phrase distingue les Ratu et les Yazata. Donc, les divinités définies comme Yazata sont, si les mots ont un sens, les divinités qui sont associées au Ratu et pas les autres. Puisque les Ameshaspenta ne sont pas associés à un temps rituel précis, mais à l'ensemble de la cérémonie, cela semble ne pas les concerner. Donc, secteur spécifique du Panthéon, mais la liste n'est pas fixe, elle n'est pas fixée, puisque nous avons neuf entités. Dans la variante accusative, Yasna 2.2, il n'y a pas de liste du tout. Nous n'en saurons pas plus. Simplement, après Ahura Mazda, le texte mentionne, dans la deuxième phrase, les Ameshaspenta, au pluriel, point, c'est tout. Donc, nous n'avons pas ici de témoignage sur les composantes des divinités comprises comme Ameshaspenta. Oui, voilà donc pour la Nivite. Mais les choses se compliquent, car le Yasna 3 et le Yasna 4 contiennent des passages qui ne sont pas parallèles au Yasna 1 et au Yasna 2. Il y a des passages spécifiques. Ce sont ceux où l'on présente les offrandes aux divinités. Hein ? Après avoir mentionné, fait l'annonce du sacrifice aux divinités, après les avoir introduits dans le cadre de la cérémonie liturgique, on introduit pour ces divinités un certain nombre d'offrandes. C'est le propre du Yasna 3 et du Yasna 4. Or, dans le Yasna 3, ces offrandes sont faites, nous dit-on, dans le but, c'est un datif, chnoumaïné, pour plaire, pour donner du plaisir aux divinités, un tel. Et hors l'énumération, ici, se fait en quatre phrases dans le Yasna 3. La première phrase mentionne la satisfaction, donc, de Ahura Mazda, des Ameshaspenta, sans liste nominale, et de Srausha. le groupe initial est élargi d'une autre divinité, la divinité Strausha, l'allégorie du fait d'écouter les textes. L'allégorie du fait d'écouter les textes. La deuxième phrase, la fravachi de Zarathustra et le feu. Troisième déclaration de faveur, les eaux, mentionnées avec insistance. Le nom des eaux est répété. Et alors, étrangement, la phrase 4 mentionne à nouveau les Ameshaspenta, sans Ahura Mazda, et les Yasata. Et les Yasata. Il semble donc bien y avoir ici une trace d'opposition fonctionnelle légère, implicite. Nous ne pouvons pas en tirer grand-chose. Mais ce qui est assez curieux dans le passage 3 par rapport au Yasna 1, c'est que le titre collectif est spécifique, mais le rang énumératif est très vague. L'immixtion de Srausha est quelque chose de curieux, sur quoi nous allons revenir. Dans les passages particuliers à la consécration des offrandes, dans le Yasna 4, l'ordre est tout aussi troublé, avec un fait assez curieux aussi, c'est que dès la deuxième phrase, l'on mentionne la satisfaction que l'on entend accorder à Ahura Mazda, et puis, en deuxième lieu, Srausha. Srausha permute avec les Ameshaspenta. Il passe avant eux. Il passe avant eux. En troisième rang, les Ameshaspenta, les Fravashi et enfin le feu. Voilà ce que nous donne la Nivite. Ce n'est pas un beau témoignage, n'est-ce pas? Mais le fait essentiel, que Narten a naturellement bien relevé, c'est que la liste de six n'était pas clôturée. La liste de six n'est pas clôturée. La Nivite considère bel et bien neuf entités virtuelles comme Ameshaspenta. Alors, le Homestorm, deuxième strate du Yasna dont nous avons parlé. Vous savez, vous souvenez peut-être, nous l'avons relevé, mais vu du point de vue strict du Homestorm, ça n'est qu'un détail, n'est-ce pas, c'est que le Homestorm est un très mauvais témoin sur la théologie des Ameshaspenta. D'abord parce que le Homestorm est un texte exclusif. C'est un texte exclusif. Hauma est en dehors d'Ahura Mazda, la seule divinité qui soit mentionnée dans le Homestorm. Ça, c'est une tendance de l'hymnologie indo-iranienne. N'est-ce pas? Les textes adressés à une divinité, surtout à titre d'éloge, or c'est un éloge, n'est-ce pas, ne mentionnent guère les autres dieux que cette divinité-là. C'est une tendance de l'hymnologie indo-iranienne en général. Donc, le Homestorm procède à un éloge spécifique. Il n'empêche que nous avons peut-être une petite mention des Ameshaspenta, mais nous n'en saurons pas plus, nous ne saurons pas définir leur personnalité. C'est dans le Yasna 10-11. Le Yasna 10-11 insiste sur cette particularité commune à Hauma et aux hommes, c'est la reproduction. Hauma est un dieu qui se reproduit. Oh, il ne se reproduit pas comme le font les hommes, bien sûr, mais en tant que plante, il produit des semences. Or, ces semences sont emportées par le vent et par les oiseaux, ce qui permet à Hauma de se diffuser à travers les montagnes. Or, ces oiseaux-là sont appelés Murga, l'oiseau, en composé Spenta Fradakshta. Il faut comprendre les oiseaux Spenta Fradakshta. Il faut comprendre ceci, on ne peut pas construire de composés à plusieurs termes. Il fallait nécessairement que soit un mecha, soit Spenta tombe. C'est Spenta qui a été élu. C'est arbitraire, vous savez, ces choses. Hein. C'est arbitraire. Généralement, on choisit le terme qui convient à la métrique. C'était un mot de deux syllabes qui convenait. Cela a certainement dicté le choix de Spenta. Mais nous devons comprendre qu'il s'agit d'une action accomplie par les immortels bienfaisants. Et cette action-là, et Fradakshta, les auditeurs du séminaire savent que ce verbe fradaksh a une signification extrêmement étroite. Il s'agit de lancer un objet avec une fronde. Je ne vois pas en français de terme qui corresponde lancer à la fronde. Je ne sais pas s'il y a un verbe particulier. Alors dans ce contexte-ci, des oiseaux lancés avec une fronde, je crois qu'il faut prendre certainement, il s'agit peut-être d'une utilisation déviée de l'expression, n'est-ce pas? Et je crois que nous avons quelques indications que cela a été pratiqué ailleurs, n'est-ce pas? Dans le mythe de Hima, entre autres. Et je crois que ce à quoi on se réfère ici, c'est surtout à la pratique de la fauconnerie. C'est la pratique de la fauconnerie, n'est-ce pas? Ces oiseaux qui portent les semences de Hauma à travers les montagnes ont été lancés comme un faucon de chasse, n'est-ce pas, par les Amechaspenta. Alors, qui sont leurs personnalités? Le texte du Homestorm ne mentionne jamais que le nom de deux entités, les deux plus importantes, Asha et Vohumana. Et je vous rappelle que dans le Homestorm, le rôle de Vohumana est essentiel parce que tout le déroulé du pressurage, de la cérémonie de pressurage jusqu'à finalement la gurgitation finale, n'est-ce pas, s'accompagne d'une mention récurrente et insistante de la pensée, mais de la simple pensée, la pensée humaine, n'est-ce pas, la simple pensée. Et dès lors que la première gorgée de Hauma est bue, cette pensée se transforme, elle devient Vohumana. Donc l'introduction du nom de Vohumana est unique dans le Homestorm, mais elle est essentielle, n'est-ce pas. C'est en buvant le Hauma que la pensée humaine du sacrifiant est transcendée en une véritable pensée de rang divin, c'est pas l'entité Vohumana. Oui, alors nous avions terminé, nous avions fait les remarques déjà préalablement, parce que c'est le texte qui nous a d'ailleurs inspiré, la Frao Reiti Haiti, donc ce que nous avons appelé la zone des déclarations ou la zone moyenne avestique. Appelle systématiquement les divinités Amesha Spenta, ne mentionne pas d'autres appellations divines. Il semble que dans ce secteur du texte, qui va du Yasna 11-16 jusqu'au Yasna 15-4, ce soit le terme officiel pour désigner les divinités. Alors, que pouvons-nous faire avec ce témoignage? Bien, nous ne pouvons naturellement pas l'utiliser, mais nous avons affaire à une strate spécifique de l'Avesta. Nous pouvons seulement nous interroger sur la personnalité de ces divinités. Or, les choses ici sont assez simples. Deux personnalités seulement sont citées, deux personnalités divines, c'est Asha, bien sûr, et Armaïti, pas Vohumana, hein, Armaïti, la première des entités féminines, mentionnée une fois. Et dans le Yasna 13.1, Armaïti est accompagnée de manière très remarquable par une suite d'entités féminines qui sont définies comme les épouses d'Ahura Mazda, Gunor. Gunor, c'est un terme qui désigne en principe la femme, mais qui, selon les strates de l'Avesta, est réservé soit aux déesses, soit aux femmes ordinaires. Or, dans le Yasna Haptankaiti, comme l'a très bien montré Narten, c'est assez évident, n'est-ce pas, il s'agit, ce sont les divinités féminines. Donc, voilà la situation du Yasna Haptankaiti. Et nous voici donc avec notre Yasna 16, n'est-ce pas, notre Yasna 16, où nous trouvons les six entités dans leur ordre de succession. Mais sans titre apparent, les entités sont là, leur ordre de succession est fixé, leur ordre d'insertion l'est également, puisqu'il figure entre Ahura Mazda et les autres divinités du Panthéon qui donnent leur nom au jour du mois. Mais le titre ne l'est pas. Pourtant, ce témoignage est extrêmement intéressant, comme je vous le faisais observer, puisque, comme cette liste du Yasna 16 est censée remplir l'intention annoncée par le Yasna 15.1 qui précède directement, je veux vous inviter, dit le chantre du Yasna 15.1, vous, les Amechaspenta, en mentionnant vos bons et beau nom. Donc, c'est très logique, si les mots ont un sens, la liste de divinités du Yasna 16, ce sont évidemment ceux que le Yasna 15.1 désigne comme Ameshaspenta. Dans ce cadre-là, évidemment, le titre Ameshaspenta vaut pour toute la liste, et pas uniquement pour les six premières divinités, pour les six divinités qui forment Ekawa Mazda, les patrons de la première des jours, de la première semaine du mois. Bien. Dès lors, mais il y a une chose nouvelle. Il y a une chose nouvelle qui est introduite par le texte du Yasna 16. Cette nouveauté, c'est... nous avons une présentation brève, tout de même, de ces divinités, de ces six entités sélectionnées. Il y a une présentation brève qui ressemble à une justification. Pour quelles raisons ces six entités sont-elles, précèdent-elles les autres? Eh bien, parce qu'elles sont, nous dit le Yasna 16, des Paurva Data Dhamman. Paurva Data Dhamman. Des créations, on va dire création pour simplifier les choses, plutôt qu'instauration ou fondation, elles sont les créations créées en premier. Créations créées en premier. Cela justifie, semble-t-il, leur rang. Le Yasna 17 reproduit une autre situation, puisque c'est une répétition du Yasna 6, du Yasamaïdé, où la liste n'est pas close comme dans le Yasna 1. Et ensuite, comme si la liste n'était pas suffisante, n'est-ce pas, l'énumération qui combine le calendrier, puis l'énumération de la Nivite n'était pas suffisante, il y a un troisième item à l'énumération. C'est une insertion du Visprat. Elles sont toujours importantes, hein, vous l'avez vu. Le Visprat 7, c'est aussi une litanie en Yasamaïdé. Nous sacrifions telle ou telle divinité. Mais cette fois, contrairement au Yasna 16, qui est calqué sur un corpus textuel précis, hein, celui du jour, celui du corpus Deyacht, et eh bien, contrairement au Yasna 17, corpus Nivite, hein, corpus Nivite dont nous avons parlé, la litanie du Visperet 7 n'est pas copiée, n'est pas calquée sur le déroulement d'un corpus textuel. Ce pourtant aussi, le Visperet 7 prolonge une réflexion. Et il s'inscrit assez directement dans la suite du Yasna 16. D'abord parce qu'il partage avec le Yasna 16 cette particularité de mentionner et longuement des divinités inusuelles qui nous seraient pratiquement inconnues si nous n'avions pas ces textes. C'était le cas du Yasna 16, hein, je voulais signaler pour certaines divinités étranges, n'est-ce pas? Mais ici aussi, par exemple, dans le Visprat 7, une strophe laisse entrevoir un yasht, texte sacrificiel aux divinités autres qu'Ahura Mazda, avons-nous défini ce genre. Donc un Yasimaïdé appliqué à quelqu'un d'autre qu'Ahura Mazda, et ce texte mentionne une belle formule de yasht adressée à une curieuse divinité féminine qui est Ham Vereiti. Le fait de recouvrir, littéralement, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je vous laisse. On a généralement donné du nom de cette déesse une interprétation guerrière. Hein, ce serait une déesse, il faudrait comprendre, couverture au sens de protection. Protection. Ensuite, cette couverture, elle est virile. Nairia, dérivée du nom de l'homme. C'est une épithète qu'elle porte. Je crois qu'il y a une autre interprétation qui est possible avec le verbe hamvar, couvrir, c'est l'interprétation sexuelle. C'est l'interprétation sexuelle. Le verbe hamvar est utilisé pour définir la prise de possession sexuelle. Et peut-être s'agit-il d'une allégorie de la possession sexuelle des femmes par les hommes, ce que la formule du Yacht n'exclut pas. Ensuite, ce texte a encore un autre intérêt. Il accorde aussi beaucoup de place, comme le Yasna 16, à l'opposition entre Mainyava, ce qui est céleste, et ce qui est Gaitya, ce qui est terrestre. Mais avec un développement. Ici, nous sommes contraints, par les faits mêmes, de donner à Gaitya son sens postérieur, c'est-à-dire matériel. Gaitya, puisque un dieu Gaitya est la voûte céleste. La voûte céleste est définie comme étant Gaitya. Le nom même de la voûte céleste est considéré comme matériel. Ensuite, prolongement encore d'une autre idée, mais sans mention de nom divin, sans mention de titre divin. C'est la mention de création, de Daman, qui ont la caractéristique d'être Paoiriya Data. Oh, c'est l'équivalent de Purvadatta. Les créations créées en premier. Et par renchérissement, Paoiriya fera Twarshta. Ça aussi, c'est le travail du menuisier. Les créations fabriquées en premier. Donc, la réflexion sur le caractère prioritaire, préalable, des Amushaspanta se poursuit. L'idée qui se développe ici, c'est qu'il y a donc une conception des Amushaspanta qui est et a deux caractéristiques. Le vice-prêtre nous l'apprend par la même occasion. D'abord, c'est que la personnalité divine des Amushaspanta, avec ses caractéristiques, elle est liée à une conception de la cosmogonie. Puisqu'il faut comprendre, nous dit le vice-prêtre, créer en premier comme le fait qu'elles ont précédé tous les secteurs. Elles ont précédé le ciel, elles ont précédé la terre, l'eau, les plantes, la vache, etc. Ce qui est la filière des créations d'Ahura Mazda. Donc, création antérieure à la cosmogonie. Ce sont les premiers actes cosmogoniques. C'est la création de ces entités non nommées ici, mais qui le sont dans l'Iasna 16 qui précède. Deuxième précision, le texte introduit subtilement, et on va y venir, n'est-ce pas? C'est que cette conception-là, cette idée de création première, est inscrite quelque part dans un texte. Le vice-prêtre en fait mention, tout de suite. C'est le premier mot du vice-prêtre 7. Vacha Arshukda Yazamaide. Nous sacrifions, ceux d'entre vous qui font de la vestique voient bien que Vacha Arshukda n'est pas un très beau, n'est pas un très bel accusatif régulier. Nous devons le comprendre peut-être devons-nous le comprendre pour un duel. Peut-être faisons ça, ce serait dans ce cas-là régulier. Donc nous sacrifions aux deux textes récités de manière rectiligne. On annonce clairement un texte, n'est-ce pas ? On se rapporte à l'enseignement d'un texte. Alors le vice-prêtre 8 qui suit immédiatement ne comporte que deux phrases, mais ce sont deux phrases qui sont littéralement explosives. Le vice-prêtre 8 est quelque chose de tout à fait particulier dans la littérature avestique. C'est une phrase comme il n'en existe aucune autre par les conceptions. En principe aberrante qui s'y lisent. À tel point, c'est à tel point que Narten a estimé dans les Amushaspanta que c'était une phrase dont il ne fallait pas tenir compte. Il ne fallait pas, dit-elle, la prendre au sérieux. Or, c'est une phrase très correcte, très régulière, qui doit être très ancienne. Pourquoi je la considère comme relative, en chronologie relative, je la considère comme ancienne parce qu'elle persiste à faire un usage distinct du datif pluriel et de l'instrumental pluriel, alors que la forme du datif pluriel s'est généralisée dans l'Avesta récent. C'est donc, je ne vais pas, m'échiner à essayer d'établir son caractère moyen-avestique ou non, mais tout de même, elle manifeste un véritable archaïsme linguistique à l'intérieur de l'Avesta. Et ce qu'elle dit, donc, son message est tout à fait étrange, sonne de manière insolite dans l'Avesta, puisque elle demande, Vice-prêtre 8.1, adresse à Ahura Mazda deux impératifs. deux impératifs. Enivre-toi, enivre-toi et prends du plaisir à ce texte. Donc, s'enivrer d'un texte, prendre plaisir d'un texte. Et prends ce plaisir, enivre-toi, prends ce plaisir avec les autres Zamesha Spenta, avec les autres, excusez-moi, avec les autres dieux, Yazata, qui sont immortels, Amesha, qui sont Spenta, et qui sont 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 et plus encore. On est loin de la liste de 6. Au contraire, n'est-ce pas, c'est une phrase qui... Ce message est insolite, vous le voyez bien, puisque c'est la seule phrase avestique que nous possédons, je pense, où l'auteur insiste sur le caractère, sur l'infinité des personnes divines. Il est sûr que dire que le nombre maximal que l'on peut manier en indo-iranien est le terme signifiant 100 000, et dès lors que l'on mentionne le nombre 100 000 en ajoutant et plus encore, c'est évidemment une image de l'infini qui nous est offerte. C'est une image de l'infini. Et il est intéressant aussi, mais la problématique des vies, elle nous conduit vers d'autres observations qui ne nous sont pas étrangères, car la deuxième strophe du Mishpat 2, la deuxième strophe, c'est une citation du Yasna Habtankhaiti. Et cette citation du Yasna Habtankhaiti, c'est le Yasna 35.8, hein, qui déclare que le kshatra, le pouvoir, doit être réservé à celui qui a le meilleur pouvoir. Ici aussi, je crois que c'est le sens rituel de kshatra, n'est-ce pas? C'est le kshatra de la cérémonie, le pouvoir magique du rite en cours, doit être confié à celui sur qui ce pouvoir donne le rendement le meilleur. Et celui-là, dit, c'est Ahura Mazda. Donc voilà cette phrase du Yasna 35.8, citée par le Vishpat 8.2, n'est-ce pas, est une sorte de dédicace rituelle exclusive qui tranche singulièrement avec la phrase qui précède, puisque la phrase qui est prise comme étalon pour justifier le fait que la cérémonie rituelle est une cérémonie réservée à Ahura Mazda, n'est-ce pas, est tout de suite mentionnée après que la phrase ait été offerte aussi en compagnie d'Ahura Mazda à toute cette infinité de dieux qui a été évoquée. C'est donc quelque chose d'assez étrange qui se produit dans ce Vishpat 8. Mais alors, à la suite, je voudrais redire simplement que, continuer, je crois que pour la réflexion sur les Amesha Spenta, le préliminaire du Yasna ne nous en apprendra pas plus. La fin du Yasna ne nous en apprendra pas plus non plus. Il faut toutefois relever, dans le Yasna 22 et le Yasna 24 qui suivent, il faut relever que les étranges inversions de termes que nous observons dans le Yasna 3 et 4 se reproduisent. Dans le Yasna 22, toujours là aussi, ils ont en commun de se situer dans la réaction de Kshnoumaïné. C'est une déclaration Kshnoumaïné, donc une déclaration de volonté de faire plaisir à la divinité. Eh bien, il y a une étrange bifurcation. Il y a une étrange bifurcation. Dans la quatrième phrase, la liste de ceux à qui il faut faire plaisir est la suivante, Ahura Mazda. Les Amesha Spenta, sans spécification de personne, Srausha, encore lui, et le feu, Attar. Renvoie à la strophe 23, où la liste cette fois est différente. Les Ahura Mazda, les Amesha Spenta, et puis Mitra, avec son acolyte Raman, le soleil, Huar. Et enfin, un dieu dont il n'a pas encore été question dans l'Avesta jusqu'ici. Bon, il faut arriver à la strophe 22-23 pour le voir mentionné à la suite de l'équipe de Mitra, c'est le dieu Vayu, qui a cette particularité de ne pas être entièrement bon. Il est ambivalent. Quand on sacrifie à Vayu, on ne sacrifie à Vayu que pour cette partie de lui qui appartient au bon Mainyu, pas au mauvais. Or, Vayu, c'est un dieu qui est bien attesté dans le Rig Veda. Il semble, je pense que Pirard a raison, il y a deux racines va, hein, ce qui ne nous permet pas d'élucider sa figure divine de manière très précise. La racine va, c'est celle du nom du vent, c'est le verbe souffler, le va. On peut l'interpréter de cette manière-là, mais le vent, c'est un autre mot, c'est vata. Vata, le vent, qui est le terme traditionnel. Ensuite, il y a une autre racine va, il y a deux racines va. C'est la racine manquer, être vide. Et aussi, on peut interpréter Vayu de ce côté-là, c'est ce que Pirard a fait, je crois que de bonnes raisons, c'est-à-dire que Vayu serait le dieu de l'espace vide, le dieu de l'espace vide. Ça va d'ailleurs assez bien, hein, ce qui est un bon argument en faveur de cette conception, n'est-ce pas, c'est que il est Tarudata pour les autres créations. Tarudata, c'est un terme qui pose des problèmes linguistiques que je vous épargne ici, mais ce qui semble vouloir dire qu'il est invisible pour les autres créations, il est invisible. Le vent est visible, hein, le vent est visible, on voit ses effets, mais Vayu, non, on ne le voit pas. En tant qu'espace libre, l'espace vide, n'est-ce pas, peut-être avec une certaine logique que cette désignation lui soit faite. Yasna 24, même anomalie que dans le Yasna 4, l'ordre d'insertion dans le panthéon des Ambushaspanta est bouleversé, puisque ils sont Saucha s'insère entre eux et Ahura Mazda. Voilà donc la situation. Alors, je voudrais, avant d'examiner d'autres aspects de la question, entre autres la question de la priorité des créations, je voudrais faire quelques réflexions sur ce que nous venons de déterminer. C'est que tous les critères qui nous permettent, les quatre critères qui nous permettent de parler d'un secteur du panthéon défini comme Ambushaspanta ne sont jamais réunis dans leur ensemble. Jamais. Il en manque toujours un. Donc je crois que Mary Boy s'est certainement justifiée, pas lorsqu'elle l'écrit, que le terme Ambushaspanta est employé par malentendu. Je crois que la position de Boyce est extrêmement hâtive. Mais si je la comprends bien, elle pense que ce sont de banales caractéristiques divines, Ambushaspanta. Et que c'est un peu par une sorte de hasard ou de tropisme terminologique que l'appellation s'est fixée sur la liste des six entités. Mais en tout cas, pour le Yasna, il n'y a pas d'Ambushaspanta de plein titre, puisque un critère manque toujours. Soit la liste est ouverte, soit le rang énumératif est bouleversé, hein, soit on peut considérer même que toutes les divinités ont droit au titre. Pour l'auteur de l'Anivit, la liste de six n'est pas fixée. Pour l'arrangeur du Yasna, l'homme qui a fait se succéder le Yasna 16 au Yasna 15, la liste est fixée, puisqu'il y a six entités. Si, dans les conceptions que se faisait du Panthéon, l'arrangeur du Yasna, la liste n'avait pas été fixée, il n'aurait pas fait place au Yasna 16. Hein. Alors, le Yasna 16 a ceci de précis qu'il justifie la préséance par la notion de priorité de création. Mais le titre d'Ambushaspanta est refusé à ces divinités. Or, le refus du titre, qui est fondé sur l'idée que tous les dieux sont immortels, Ambusha et son bénéfique, Spanta, est rendu apparent de deux façons. C'est l'inscription du Yasna 16 à la suite du Yasna 15.1, et c'est surtout l'insertion des passages du Visprat qui sont particulièrement explicites à cet égard, puisque ce sont tous les dieux qui reçoivent la désignation d'Ambushaspanta. Alors, ce que nous apprend aussi la liste du Yasna 16, ce que L'idée que nous pouvons nous faire, c'est qu'il n'a pas été facile de clôturer la liste. Mais il n'a pas été facile non plus de l'ouvrir. Nous en avons le témoignage. Je ne vous ai pas parlé du Yasna 18. Le Yasna 18, il serait très tentant de le négliger, car il est exclusivement composé de citations de l'Avesta ancien. Ce sont des citations d'Egata, exclusivement d'Egata. Or, quels passages d'Egata sont évoqués dans le Yasna 18? Dans le Yasna 18, les passages se sont essentiellement. Yasna 18.1, la strophe gathique, Yasna 51.7. Yasna 51.7. Ensuite, une citation d'une gatha tout entière, d'une haïti gathique tout entière, le Yasna 47, qui ne comporte que 6 strophes. Ne comporte que 6 strophes. Ce n'est donc pas un texte très long pour être cité. Mais le Yasna 47.1, la première de cette strophe, qui est d'ailleurs répétée à la suite, une fois que toute la haïti a été reproduite, la strophe 1 survient à nouveau. Elle a une particularité tout à fait sensible, c'est que c'est la seule strophe gathique où le nom des six entités de la liste est mentionné. Ils sont mentionnés ensemble. Comme ça fait beaucoup, la strophe tout entière n'est quasi composée que de ces noms-là. C'est d'ailleurs une strophe qui n'est pas aisée, car les mentions se font en instrumental. Ça, vous le savez, je vous ai parlé de la prédilection de l'emploi instrumental du nom des entités dans les gathas. Ils sont mentionnés à l'instrumental, mais ce qui fait que la strophe peut-être nous échappe dans une certaine mesure, n'est-ce pas? C'est que ce qui arrive fréquemment dans les gathas, nous en parlons dans la deuxième partie du cours, c'est qu'il y a une ellipse, et une ellipse du sujet du verbe. Nous ne savons pas qui est le sujet du verbe. C'est très fréquent dans les gathas. C'est une situation gênante qui n'a pas, peut-être auquel on n'a pas accordé une attention suffisante jusqu'ici, en résolvant le problème avec des artifices. Mais il y a littéralement dans l'Avesta, dans les gathas, ce que j'appelle des trous noirs lexicaux. Il y a des trous noirs lexicaux. Et c'est une pratique systématique, n'est-ce pas ? À quoi cela correspond ? Je ne vous le dirai pas parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il faut y accorder une attention beaucoup plus grande qu'on ne l'a fait. Or, le Yasna 47 est un exemple typique de cette pratique. Il n'y a aucune strophe qui ne comporte une ellipse. Aucune. Sur les 6 strophes, toutes présentent une ellipse. Donc il y a un système rhétorique conscient et élaboré qui se déploie dans ce texte. Mais la première de cette strophe, ce qui intéresse le rédacteur du Yasna, c'est évidemment cette strophe où le nom des six entités est rassemblé de façon systématique. Où est le problème ? Où est le problème ? Le problème, c'est qu'il n'a pas été facile de compléter la liste. Il fallait choisir les deux dernières entités. Vous savez, d'une certaine manière, les 4 premières s'imposent. S'imposent par la fréquence de l'emploi. Par la fréquence de l'emploi. S'il avait fallu. Ben, je comprends parfaitement que ce ne soit pas un problème dès lors que les théologiens de l'Avesta récent s'appliquaient à créer un secteur spécifique du Panthéon en utilisant le matériel des entités abstraites, des allégories, des gathas. Il était absolument indispensable de sélectionner Asha, Vohumana, Kshatra et Armaiti, certainement. Mais Hurvatat et Amurtat ne sont pas des termes spécialement fréquents. Ce ne sont pas des mots employés préférentiellement à l'instrumental. Rien ne l'indique. Ce choix est dans une certaine mesure un choix arbitraire. Donc il n'était pas facile de porter la liste à 6 à partir du matériel gathique. L'argument est ici. L'argument, c'est le Yasna 47.1. Il opère le rassemblement. Alors, l'autre petite strophe qui précède, le Yasna 51.7, c'est une strophe qui mentionne, justement, exclusivement, Hurvatat et Amurtat, les deux dernières entités. Ces citations gathiques, implicitement, sont une justification de la sélection des six entités. C'est étrange que pour l'arrangeur du Yasna, il ait été encore nécessaire de se référer à des arguments d'autorité, à des arguments de spéculation sur les textes biblistiques. En réalité, c'est qu'à l'époque où lui, cet arrangeur, est au travail, où il met au point le récitatif de la longue liturgie adressée aux Amushaspenta, adressée à Ahura Mazda et à ses entités, il fallait que ce choix n'aille pas encore de soi. Ce choix n'allait pas de soi. Choix de deux entités. Il n'était pas facile non plus, vous disais-je, de réduire la liste. S'il existait préalablement la liste des entités nivites, 9 immortels bienfaisants dans la liste de la nivite, il fallait expulser certaines entités. L'expulsion a dû présenter aussi une certaine difficulté, parce que c'est une opération délicate, n'est-ce pas ? Étant donné que le corps des Amushaspenta apparaît comme particulièrement prestigieux dans le panthéon par son association au rite central, exclure telle divinité ou telle autre est un problème. Ça peut être un problème. Et effectivement, insertion du visprat, heureusement, ces insertions sont intéressantes. Peut-être grâce à cela que nous possédons le visprat, n'est-ce pas ? C'est que l'enseignement qui s'y trouvait consigné faisait fonction d'argument pour l'arrangeur du Yasna. Il y a mention des Amushaspenta dans le visprat, et puis directement dans la strophe suivante, la mention des deux entités délicates à sélectionner, Hurvatat et Amurtat. Et puis, suivi des 3 exclus. Donc une strophe spécifique qui réunit les 2 entités sujettes à caution et les 3 entités exclues de la Nivite, Geush Tashan, Geush Urvan et le feu. Le feu est un problème, je l'écarte, il est un problème en soi, mais nous n'allons pas nous y attarder parce que ce sera un détail. Le feu est un problème parce qu'en fait, il transcende les catégories. Si nous prenons les textes de la Nivite, nous nous rendons compte que le feu figure à la fois dans la liste des Amushaspenta et dans la liste des Yasata. Mais le feu rituel est quelque chose de très particulier, très particulier. Et cela tient à la nature spécifique du feu dans le cadre du rituel. Mais Geush Tashan ou Geush Urvan sont donc exclus de la liste. Pourtant, il y a bien dans la Vesta récente, une liste d'Amushaspenta qui porte ce titre par opposition au Yasata, et qui sont explicitement dénombrés comme étant 7. Mais ce témoignage-là, nous ne le trouvons que dans les Yashtes, curieusement. Il est réservé aux Yashtes. Pour le Yasna, effectivement, un critère fait toujours défaut. Par contre, dans les Yashtes, à diverses reprises, il y a 3 passages particulièrement impressionnant pour établir ce fait-là. Et ce sont des yashts importants, probablement anciens, n'est-ce pas, avec un texte qui n'est pas un texte de réutiliser. D'abord, une répartition fonctionnelle entre les Amushaspenta, les 7 Amushaspenta et les Yasata. C'est la confrontation que l'on peut faire entre le yasht du soleil, où l'on dit lorsque le soleil se lève, lorsque le soleil brille, les dieux Yasata rassemblent le kwarna du soleil. Ils le rassemblent, ils le font passer vers la terre. Nous devons au Yasata, au dieu Yasata, le transfert vers la terre du kwarna du ciel. Mais dans le texte qui suit, qui est le pendant du yasht au soleil, le yasht à la lune, donc l'astre lunaire, Mar, lorsque la lune brille, dit le texte, les Amushaspenta, les 7 Amushaspenta, rassemblent le kwarna du ciel et le font passer vers la terre. Donc, une action durant le jour est faite par les dieux Yasata et durant la nuit par les dieux, Ameshaspenta. Trace de répartition fonctionnelle. Ben, on trouve aussi un autre passage extrêmement important, c'est le Yash de Kwarna, le Yash de 19. Le Yash de 19 se présente, rappelez-vous, mais il y a très longtemps je vous en ai parlé, rappelez-vous, comme se déroule selon le fil de l'histoire du monde. Et il commence par le temps où les dieux étaient seuls. L'univers n'était pas encore peuplé d'hommes. Eh bien, le premier à posséder le Kwarna, bien sûr, c'est Ahura Mazda. Et puis, les sept Ameshaspenta, qui tous, nous dit-on, ont la même pensée, la même parole, la même action, etc. Et dont Ahura Mazda est le premier, parce qu'il est leur père. Hein. Donc, et puis, troisième niveau de transmission du Kwarna, les dieux Yazata. Il n'est pas indifférent de relever que ici, donc, nous avons un texte qui est très clairement construit selon une conception de l'histoire du monde. Ce qui se reflète en filigrane de ce texte, c'est la cosmogonie. Et nous voyons rejoindre ici, dans la perspective du Yash de 19, la notion de création créée en premier, n'est-ce pas ? Les Ameshaspenta occupent, sans qu'il le soit dit, ici, on n'est pas aussi explicite, on ne nous dit pas qu'ils ont été les premiers créés, mais ils occupent la première place. Ils occupent la première place dans la création du monde. Puis viendront, bien sûr, après les dieux, les différents humains qui détiendront le Kwarna, dans leur ordre selon l'histoire mythique, bien sûr. Mais la place des Ameshaspenta dans le Yash 19 montre clairement une conception calquée sur la cosmogonie et la notion de création première. Alors, voilà, je crois que nous avons affaire, en réalité, à peut-être à une controverse théologique interne aux théologiens de l'Avesta récent. Ne dramatisons pas, on le fait trop souvent lorsqu'il est question de mazdéisme, zoroastrisme. Il n'y a certainement pas ici une conception qui puisse créer soit un schisme, soit une hérésie. Mais il semble que l'accord n'ait pas été unanime sur la réservation du terme Ameshaspenta à la classe particulière des six divinités. L'auteur du Yash de 19, l'auteur des Yash au soleil et à la lune le font. Hein, ces auteurs-là le font. Mais l'arrangeur du Yasna ne le fait pas. Il a même soin de rassembler des passages, se refuse à cette pratique, et parfois avec d'une manière extrêmement claire, comme le Yasna, comme le Visprit 8. Ce sont donc, on peut relever dans l'Avesta, et ceci me permet de vous dire que nous aurons au mois de mai un conférencier qui est Albert de Jong, n'est-ce pas, et qui a défend la défendre une perspective extrêmement intéressante et curieusement nouvelle, c'est pas de penser qu'il y a dans le mazdéisme, même dans ses expressions officielles, dans l'Avesta, dans les livres Pelvi, n'est-ce pas, le témoignage d'une certaine diversité d'opinions, d'une certaine diversité de conceptions, et que cela ne signifie pas naturellement que il y a eu des affrontements extrêmement violents sur ces sujets-là, mais on a discuté. Il y a eu des discussions. Et certainement, l'usage du terme Ameshaspenta a été un de ces points de controverse. Alors, vous voyez aussi l'autre conclusion à présent, l'autre conclusion que je voudrais tirer de l'examen que nous venons de faire, c'est autre chose. C'est que les Ameshaspenta réel ou par malentendu de l'Avesta récent, il ne nous aide en rien à comprendre le système des entités, des allégories, des gathas. Le système des Ameshaspenta est fondé sur le système, il est tiré par spéculation du système des allégories gathiques, mais il ne nous éclaire pas sur ce qui a dicté cette étrange pratique de l'hymnologie gathique, d'introduire avec autant d'insistance le nom d'un certain nombre d'abstractions. Le problème est tout entier dans les gathas. Le problème est là. Je pense, je n'ai pas commencé l'examen maintenant, s'il faudrait refaire un examen gathique, mais je voudrais faire cette réflexion-ci à cet égard. la tendance à sélectionner six allégories parmi dans le corps des allégories gothiques a certainement été une tendance très ancienne. Parce que dans une certaine mesure, le Yasna Haptankaiti le fait. Le Yasna Haptankaiti isole dans son chapitre 37, c'est le premier chapitre du Yasna proprement dit, six entités. Il isole six entités, Ahura Mazda étant la septième en quelque sorte aussi. Donc la tendance a dû être assez ancienne, mais n'est pas accomplie, car les noms ne sont pas les mêmes dans le Yasna Haptankaiti. Or, la galaxie des entités gathiques, on doit se la représenter comme cela. Narten a raison. La rhétorique gathique a comme particularité de produire de l'entité. Toute abstraction peut, à un moment ou à un autre, selon les préoccupations du poète, devenir une sorte de divinité. C'est possible. C'est une caractéristique générale, non pas seulement des gathas, mais de la plus vieille hymnologie indo-iranienne. On peut l'observer dans le Rig Veda aussi. Donc, il y a une tendance à diviniser les abstractions de manière sporadique, c'est vrai. Il y a donc une galaxie d'entités instables, oui, mais à côté de cette dans cette galaxie d'entités instables, il y en a quatre qui ont un statut tout à fait particulier et qu'il est impossible de ne pas reconnaître. Ce sont les quatre premières de la liste, celles qui s'imposaient aux théologiens qui ont voulu limiter la liste. Ce sont ces quatre-là. Mais il faut noter aussi que ces quatre entités sont étrangement déséquilibrées. Ashai Vohumana, emploi instrumental très fréquent. Elles sont omniprésentes. Je vous ai dit, une strophe sur deux, je te présente soit le nom d'Asha, soit le nom de Vohumana, soit les deux. Une strophe sur deux les mentionne. Sont à peine moins fréquents qu'Ahura Mazda. Fréquemment, l'instrumental. Kshatra emploie à l'instrumental fréquent, mais beaucoup moins fréquent. Alors que l'expression que j'avais retenue pour définir cela, c'est dire « Asha et Vohumana sont omniprésents, Kshatra les saupoudre ». C'est du saupoudrage. Il intervient parfois dans la configuration Asha-Vohumana, mais pas chaque fois. C'est une entité beaucoup moins fréquente. Et chose remarquable aussi, sa divinisation, en quelque sorte, son accès au statut divin, ne ressort clairement que d'un seul passage, une seule strophe. C'est évidente, mais extrêmement rare. Et alors, à côté de cela, c'est pas l'entité féminine, Armaïti. Sa fréquence équivaut à peu près à celle de Kshatra. C'est aussi une divinité de saupoudrage. Parfois, elle s'insère, elle forme trio avec Asha et Vohumana. Parfois, pas toujours. Seulement, particularité ici de cette entité féminine, c'est de ne pas être utilisée à l'instrumental. Son nom n'est pas mentionné à l'instrumental. C'est une divinité active. Donc, vous voyez, le système cloche quelque part. Mais je crois que nous ne pouvons plus aborder ce problème à partir des données de l'Avesta récent. L'Avesta récent, c'est un développement spéculatif. Le corps des Amushaspenta, c'est un développement spéculatif dont nous avons les traces, elles sont là. Nous pouvons les analyser, alors il faut en tirer les conséquences et il faudra examiner les gathas autrement à cet égard. Je voudrais aussi peut-être... quelques petites réflexions n'iront pas plus loin parce que nous sommes confrontés ici au problème des confins. Toutes ces modifications du Panthéon, j'en ai fait le titre, Métamorphose du Panthéon avestique, ce ne sont pas les seules. Nous devinons d'autres choses aussi à travers les textes du Yasna. Par exemple, il y a dû y avoir, à l'époque vieille avestique, un culte des dames, pas les déesses, les gnars, et un culte des eaux. Les eaux sont des dames, mais toutes les dames ne sont pas des eaux. Il faut donc que nous fassions la distinction, les femmes divines et les eaux, les eaux étant des femmes divines. Mais nous n'avons pas de traces dans les gathas, pas de traces de ce culte. Par bonheur, nous en avons un très beau témoignage dans le Yasna Haptankaiti, qui en fait même le point central de sa liturgie, le Yasna 38. C'est le sacrifice aux eaux, n'est-ce pas, en tant que femme et épouse d'Ahura Mazda. probablement une certaine importance à l'époque moyenne-ovestique. Il est très probable, mais il faudra l'examiner, que le Yasna 56 soit un vieux commentaire d'un récitatif rituel adressé aux eaux. Le moyenne-ovestique a encore une liste élargie, comme je vous l'ai noté tantôt. Et le culte des eaux est encore visible par lambeaux dans la strate nivide, ne l'est plus ailleurs. C'est pareil, entre autres dans le corpus des Yasht, c'est une chose qui n'est plus apparente. Alors l'autre problème, le deuxième problème des confins, lui aussi, c'est la bifurcation mentionnée, n'est-ce pas ? Quelle place occupe exactement dans le panthéon gathique, cette fois-ci, ancien, et dans le panthéon récent, un dieu comme Srausha ? Voilà un dieu mentionné dans les gathas, non pas avec la même fréquence que Vahumana et Asha, dont le caractère divin, de personne divine, est clair dans les gathas, qui n'est pas retenu dans la liste des entités. Il est vrai, il y ferait tâche parce qu'il est masculin. Alors, il n'y a pas d'entité masculine. Il est un dieu clairement masculin. Alors que la divinité qui se rapporte à Srausha, Ashi, divinité féminine, elle s'est introduite dans la suite d'Armaïti, c'est assez simple. Mais quelle réflexion, il a dû y avoir aussi une réflexion théorique, n'est-ce pas, des théologiens récents, quant à savoir quel statut particulier accordé à ce dieu gathique, mais qui ne pouvait pas être retenu, peut-être à cause de son sexe, dans la liste des six entité immortelle bienfaisante. Le caractère de Srausha est très curieux, car la bifurcation Ameshaspenta Srausha, et puis en reprise Ameshaspenta Mitra, n'est-ce pas, laisse penser qu'il y a comme deux strates différentes du panthéon, alors que dans le Yasht de Mitra, Srausha est un dieu compagnon de Mitra. C'est littéralement le compagnon de Mitra, en même temps qu'Eshi. Il y a là un statut divin très particulier, mais qu'il est pour l'instant prématuré de vouloir analyser, parce que je ne pense pas que nous puissions, en l'état des choses, cerner mieux ces problèmes. Nous ne saurons peut-être jamais, d'ailleurs, parce que je crois que les textes à Srausha ne sont pas extrêmement explicites. Pour les eaux, peut-être pourrons-nous avancer un jour, parce qu'une analyse précise du Yasna 56 nous en prendrait sans doute beaucoup, à condition de concevoir le Yasna 56 comme un commentaire de texte. Mais ce n'est pas un travail facile. Les étudiants du séminaire en savent quelque chose sur la littérature de commentaires. Alors, nous reprendrons cet examen à partir de la littérature de commentaires, cette fois-ci, ce sera le 11 janvier. Le 11 janvier. Je vous remercie, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous présente mes meilleurs vœux.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.